printemps du livre Grenoble 2025, les rencontres littéraires radiophoniques de la librairie des étudiants. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième entretien de la librairie des étudiants au printemps du livre de Grenoble, réalisé avec la poétesse Rim Battal. Son premier roman, Je me regarderai dans les yeux, est paru aux éditions Bayard durant la rentrée littéraire d'hiver en janvier 2025. Je me regarderai dans les yeux, c'est l'histoire d'une jeune femme de 17 ans. Nous suivons son quotidien. Un quotidien feutré entre le lycée et les soirées clandestines, à sa fenêtre, à vouloir fumer une cigarette avec sa sœur. Avec un père aimant et une mère autoritaire, votre personnage principal se fait discrète, ne restant pas pour autant insensible. Mais cette fameuse cigarette dont je parlais, bien qu'elle soit couverte par un mensonge bancal, sera l'élément déclencheur d'une fugue de la jeune femme. C'est sous les coups de sa mère qu'une décision s'impose, fuir ou mourir. Votre roman parle aussi du vernis des bonnes apparences que se donnent les gens, mais aussi de la façon dont ces masques sont perçus par les autres personnes. Est-ce que c'est toujours le cas, une fois les portes fermées ?
Ah, c'est une grande question, en effet. Alors déjà, je voudrais juste revenir très brièvement sur ce que vous avez dit un peu avant. En fait, vous avez parlé d'un père aimant et d'une mère autoritaire. Et je pense que la mère, malgré son autorité, elle n'est pas sans amour. Elle le manifeste à sa manière. Cet amour est accompagné de violence, certes, mais il existe. Et c'est pour ça, c'est ce qui fait que ce personnage est complexe et qu'il mérite qu'on s'arrête un peu dessus.
Bien sûr.
Le personnage du père, en effet, c'est un père aimant, etc., mais qui, à un moment, il échoue aussi à protéger son enfant des foudres qui s'abattent sur elle. Et, pardon, j'ai oublié la suite de la question.
Alors, je vous parlais donc les fameux masques des bonnes apparences que se donnent les gens. Est-ce que c'est toujours le cas, du coup, une fois les portes fermées ?
Oui, alors c'est toujours le cas une fois les portes fermées, mais ce sont des masques qui... parfois se prennent un peu trop au sérieux. Et comme ils savent qu'ils ne sont que masques, ils essaient de s'imposer par la violence, et par la force et par la domination. C'est un peu aussi le propos du livre, parce qu'en fait, on comprend aussi que il y a cette, que l'autorité parentale, elle a aussi des limites, elle a ses faiblesses, elle a ses défaillances. Quand l'enfant, par exemple, pour fuir la violence dans le livre, le personnage principal, la violence physique donc de sa mère déclenchée par cette cigarette fumée, elle arrive à s'extirper et à fuir la violence en partant. Et donc, c'est quand cette autorité parentale se réalise qu'elle ne peut pas séquestrer l'enfant, qu'elle ne peut pas le garder derrière ces murs-là, justement, et elle impose une autre forme de prison qui est justement ce certificat. Ok, tu sors, mais il y a un prix à payer derrière.
Un prix qui est très lourd pour elle.
C'est exactement, parce que les murs se referment sur le personnage principal.
D'abord, alors qu'elle est dehors, la chambre.
Exactement, parce que d'abord, les murs, en fait, ce sont ceux de la chambre. Mais ils deviennent ceux du corps, puisqu'on va chercher sa pureté et jusqu'à l'intérieur de son corps en essayant d'aller voir si elle est vierge ou pas.
Voilà, parce que sa mère lui demande donc un certificat de virginité.
Oui, pardon, je vais trop vite en besogne.
Non, mais il n'y a pas de mal. Donc, ce roman se construit aussi autour de deux personnages, j'ai envie de dire presque secondaire, mais pas tellement finalement. On retrouve donc la mère de la narratrice, de ce personnage principal, mais aussi sa tante Aïda. Comment vous est venue l'idée de créer ces deux personnages avec des caractères que tout oppose radicalement ? Ou presque ?
Ou presque, exactement. Ou presque, il est important parce qu'en fait, ce sont des femmes qui sont rivales, qui sont en compétition, précisément parce qu'elles se ressemblent sur pas mal de points, parce qu'elles ont beaucoup de choses en commun, et notamment justement cette force de caractère, le fait qu'elles s'affirment, qu'elles ont un travail, qu'elles arrivent elles aussi à repousser les murs de leur propre prison, c'est-à-dire la mère, à un moment, il y a des collègues qui essaient de lui imposer le voile, elle le refuse, elle jette le foulard, la tante de son côté, elle a un poste de responsabilité, elle a monté son entreprise, elle dirige des équipes d'hommes, etc. Donc elle repousse aussi, elle élargit son espace vital. Et donc les deux se mènent une guerre de pouvoir depuis des années, dont justement le personnage qui est la narratrice, qui est la fille de l'une et la nièce de l'autre, va se retrouver, je sais pas comment dire, outil, arme,
instrumentalisé peut-être.
Instrumentalisé, exactement. Donc son désarroi est instrumentalisé malheureusement par le personnage de la tante qui l'utilise pour nuire à une autre femme. Et je voulais aussi avoir ces personnages de femmes fortes qui ont réussi, qui s'affirment, etc. Comme celui aussi, parce qu'en fait il y a une sorte de trinité de femmes avec la gynécologue qui est un personnage important, un personnage clé, même si on la voit pas beaucoup, mais c'est par elle que arrive par elle qu'est exécutée justement la sentence. C'est elle le dernier bourreau, celle qui fait tomber le couperet. Et je rigole, mais c'est pas drôle.
C'est un rire nerveux, on va dire. Voilà.
Non, il est même pas nerveux, il est vraiment joyeux, mais la joie arrive parfois voilà. Des moments inattendus.
Il faudra laisser le soin à ceux qui nous écoutent de découvrir pourquoi vous parlez de ça, parce que c'est
exactement.
Aussi l'un des enjeux, je crois, un moment clé et pivot de votre roman.
Oui, tout
Est-ce
à fait.
Est-ce que, il y a quelques années, Léa Salamé avait créé une série d'émissions diffusées sur France Inter qui s'appelait Les Femmes Puissantes, où elle rencontrait justement des femmes qui marquent leur temps, leur époque, parce que justement, elles s'affirment de par tous les moyens. Est-ce qu'on pourrait appliquer peut-être ce terme de femme puissante justement à Aïda et à la mère de la narratrice ?
Je pense, oui,
à leur manière.
Que ce sont exactement à leur manière. Ce sont des femmes puissantes à leur manière et dans leur environnement aussi. C'est ça qui est à prendre en compte. Ensuite, comme toute femme puissante, malheureusement, elles se brûlent de leur propre feu et aussi reproduisent des violences patriarcales qu'elles n'ont pas forcément dénouées, qu'elles n'ont pas identifiées en tant que telles, malheureusement, mais qui passent par elles. Parce que, comme on le voit aussi dans le livre, il y a les personnages masculins, le père, le petit copain, etc. Ils ne sont pas innocents. On m'a parlé parfois de leur lâcheté, mais il ne s'agit même pas de lâcheté en fait, il s'agit plutôt d'une sorte de délégation de la violence. Ils sous-traitent la violence, ils la délocalisent et ils passent par des femmes qui vont la reproduire pour X ou Y raison, aussi par stratégie de survie, parce qu'elles ne, comme je disais tout à l'heure, elles ne l'ont pas identifié en tant que violence patriarcale. Et ce sont les générations suivantes qui en payent qui payent les pots cassés.
On aura l'occasion d'y revenir. Comment avez-vous travaillé cette langue d'une jeune femme de 17 ans ?
C'est une langue qui existe toujours, qui est toujours là, qui est à pied au fond de chacun, chacune, je pense. Comme la langue de l'enfance, en fait, quand on veut écrire le personnage d'un enfant, je pense qu'il est assez facile de se souvenir de ce qu'on a été et de convoquer ce vocabulaire, ce champ lexical, ce flow de l'adolescence ou de l'enfance, en fait, qui a ses propres, sa propre musique, son propre rythme, c'est son propre vocabulaire aussi en fonction des générations et donc oui j'ai retrouvé la voix de l'adolescence que j'ai sans doute été ou peut-être c'est aussi la voix qui passe par le prisme la langue qui passe par le prisme du souvenir souvenir forcément un peu défaillant accidenté voilà, mais elle est toujours là. Et puis après, on cède de nombreux outils littéraires et subterfuges et on s'appuie aussi sur des références musicales, littéraires. On essaie d'installer une atmosphère qui aide aussi, qui porte cette voix et ce personnage.
Pendant qu'on parle d'écriture, vous êtes poétesse, c'est votre premier roman.
Oui.
Est-ce que la bascule a été facile ? Comment s'est agencé les mots dans votre construction de ce roman ?
Alors la poésie, je pense qu'on peut la retrouver dans ma manière de parfois user de la répétition de certains mots dans l'écriture, dans la musicalité de certaines phrases, dans un côté un peu punchline que j'ai aussi en poésie.
Mmh.
Et le passage de l'un à l'autre n'a pas été si difficile en fait. Je pense que la difficulté c'était surtout de trouver le temps lent que nécessite l'écriture d'un roman, hein, parce que l'écriture de la poésie est beaucoup plus fragmentée. Enfin, la poésie permet ça, parce que comme s'il s'agit de textes courts, très denses, intenses, on peut les écrire par à-coups, prendre des notes, y revenir, corriger petit à petit, en fonction de ce que la vie permet. La vie qui a ses nécessités matérielles que l'on connaît ou devine. Alors que pour le roman, en tout cas, du moins au moment du premier jet, On a besoin quand même d'un temps assez long pour se poser et vraiment écrire afin de préserver une sorte de cohérence stylistique et esthétique et qui permet justement l'immersion en tant que lectrice.
Peut-être étais-je, sans m'en douter, en train de quitter définitivement l'enfance, de lui faire mes adieux. Un extrait de votre roman, la page 79. Ce roman, c'est donc celui d'une rupture?
Ah, celui d'une rupture, c'est celui d'une rupture avec l'enfance, une rupture avec ce qu'on a ingurgité enfant comme unique option et unique possibilité pour la vie. Je ne sais pas si j'arrive à le dire correctement, mais quand on est enfant, on a sa propre nature, on a une personnalité qui se prononce, qui est évidente assez tôt. Mais avec l'éducation, l'entourage, l'école, etc., on essaie de faire de nous des personnes qui vont pouvoir s'insérer dans une société donnée, qui vont pouvoir rentrer dans des cases, remplir un cahier des charges en fonction de notre genre, de notre classe sociale, des croyances religieuses ou des traditions du milieu duquel on vient. Et ce texte-là, c'est un peu une rupture, en effet, dans le sens où le personnage principal, après ce gros accident de la vie qui est cette transgression qui se solde par de la violence et qui l'a fait fuir le domicile familial, se retrouve enfin délestée du poids de certaines injonctions parce qu'elle les voit telles qu'elles sont enfin. Donc comme des injonctions extérieures et non pas des convictions personnelles et des choix. Et cela lui permet justement de s'affirmer, de s'émanciper, d'aller vers elle-même et d'essayer de découvrir qui elle est et de prendre le pouvoir sur son corps et sur sa sexualité enfin.
C'est quelque chose avec lequel on va pouvoir faire le lien. Dans le livre Enquête, L'amour interdit de Michaël Gagnier, Leïla Slimani écrit une préface où elle parle d'une génération justement de jeunes hommes et de jeunes femmes qui ne peuvent pas vivre pleinement leur vie, que ce soit leur sexualité, leur rapport à l'autre, car le poids des traditions pèse très lourd sur eux, sur leurs épaules. Pour reprendre une partie de la métaphore de la cigarette, quelle serait l'étincelle qui mettrait le feu à la mèche aujourd'hui?
Il y a pas mal de mèches et pas mal de feux. Pas mal de feux possibles.
Impossible, donc ils ne sont pas encore arrivés.
Qui ne sont... Mais qui
Oui.
mettrait le feu à quelle mèche? Les mêmes mèches à moi ou les mèches
À cette
de la
jeune
société?
génération qui a peut-être envie de s'émanciper un petit peu de cette tradition qui leur pèse trop lourd sur leurs épaules. Ils cherchent peut-être à vivre leur vie sans forcément que les parents soient derrière pour leur rappeler cette espèce de tradition qui finalement devient un peu un dogme et qui les enferme, qui les contraint à une certaine condition. Par exemple, avec le certificat de virginité qui
Oui,
devient
bien
nécessaire.
sûr. Mais en fait, je pense que moi, je suis autrice et j'ai écrit un livre. J'en écrirai d'autres. Mais je pense pas. Je n'ai pas envie d'avoir la position ni la posture de celle qui va donner des leçons aux générations futures. Je donne une sorte de précédent ou de modèle en littérature auquel on peut éventuellement s'identifier et y trouver peut-être des pistes pour trouver son chemin, son propre chemin d'émancipation. Donc, je n'ai pas forcément envie de donner des conseils directs parce que je pense que surtout chaque génération a ses urgences, a ses outils. Et moi, tous les jours, je suis bluffée par la force de la génération qui vient, par sa lucidité, par sa manière d'avoir conscience d'énormément d'enjeux dont j'étais vraiment très très loin, moi, ayant grandi dans les années 2000-2010. Eh bien, quand je rencontre des lycéens et lycéennes aujourd'hui, je les trouve tellement matures, tellement, comment dire, oui, lucide, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ça. Ça lucide sur leur situation, sur leur positionnement, et je leur dirais simplement de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser abattre par l'amorosité ambiante, par l'éco-anxiété, par la peur de ce qui va advenir de nous dans les prochains mois, les prochaines années, parce que ils et elles sont justement des agents du changement et ils et elles sont et la mèche et la flamme et absolument tout. Nous avons le pouvoir individuellement et collectivement. On peut s'organiser, se lier aux autres. Et je pense que les jeunes aujourd'hui sont Je suis très impressionnée. Je suis vraiment impressionnée. Ouais, ils sont très inspirants et je pense que c'est la génération de mes parents à moi, je pense qu'ils devraient s'inspirer de nous. Et la génération, les jeunes générations, moi je m'inspire d'elles et d'eux tous les jours et je trouve ça très sain. Aussi, que le savoir, que la connaissance de la vie ne passe pas forcément, enfin ne soit pas verticale, ne ruisselle pas forcément que du haut vers le bas, mais qu'on puisse aussi se pencher sur ces jeunes générations et apprendre d'elles.
Quand vous vous regardez dans les yeux, qu'est-ce que vous voyez ?
Je vois une femme qui a l'âge qu'elle a toujours rêvé d'avoir, qui a enfin réussi à voir justement à travers le brouillard épais que j'ai pu traverser ces dernières années, que je me connais mieux et que ce que je connais de moi aujourd'hui me plaît.
C'est très beau comme message. Je vais être obligé de poser cette question parce que c'est...
Non.
Donc, non.
La question, c'est quoi ? Est-ce que c'est une autobiographie ?
Ah non, pas du tout. Non, mais... Non, non, okay, absolument pas. Ça aurait pu.
Je suis vraiment, mais...
Non, en fait, c'était par rapport...
Pénible, non, comme que... en tant qu'interviewée.
Oh non, 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 pas du tout. Non, sinon, j'aurais peut-être coupé depuis plus longtemps. Non, mais comme c'est écrit au futur, je me regarderai dans les yeux. La vraie question, c'est... Voilà, est-ce que vous, qui êtes... On va le dire, ne prenez pas sans offense, plus âgée que votre narratrice, c'est la question, vous, quand vous vous regardez dans les yeux, qu'est-ce que vous voyez ? Quel est votre livre de chevet actuellement ?
Mon livre de chevet, c'est un livre... En fait, j'ai une sorte de pile à lire sur mon chevet, genre littéralement livre de chevet. J'ai plusieurs livres que j'ai pas encore lu ou que j'ai feuilleté un peu mais que j'ai pas encore lu, mais celui que dans lequel je picore en ce moment tous les soirs, c'est il vient pas de sortir, c'est un livre d'Élodie Petit qui s'appelle Fiévreuse plébéienne, qui est sorti aux éditions du Commun. Et j'ai toujours depuis des années là Anna Karenine de Tolstoï,
oui.
Parce que c'est un livre que j'aime vraiment beaucoup et de temps en temps je relis des passages et je gribouille des notes parce que j'aimerais beaucoup le... Je ne sais pas quoi faire avec ce livre, j'aimerais l'adapter au cinéma ou le réécrire ou je ne sais pas, mais il y a quelque chose que je trouve vraiment hyper important dans ce livre et qui me parle particulièrement. Et je viens d'acheter un livre, je n'ai pas commencé, de Marek Alter. Qui est un théologien à la base, je crois c'est ça, il est théologien essayiste juif, il me semble, et qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge de l'adultère, en passant par des histoires qui sont inspirées de personnages de la Torah. Et ça m'a intéressée parce qu'il y a aussi un personnage dans le Coran qui s'appelle Assia, qui est la femme du pharaon et qui tombe amoureuse de Moïse alors qu'elle est mariée. Et je trouve ça très beau parce qu'en fait dans le Coran, malgré l'interdiction de l'adultère dans l'islam, le Coran justifie absolument cet amour et le présente comme vraiment pur et absolu et au-delà de tout. Et je trouve ça fascinant justement qu'il y ait une histoire aussi puissante et une des plus belles histoires du Coran qui est Joseph. Voilà, pardon, du prophète Joseph dans le Coran. Et j'ai envie d'en faire aussi quelque chose, donc je me suis dit, je vais d'abord voir ce que Marek Alter a fait avec son essai à lui, et puis on verra.
Affaire à suivre alors.
Affaire à suivre.
Je me regarderai dans les yeux, le premier roman très réussi, c'est à retrouver en librairie indépendante. Merci Rim Battal.
Merci à vous.
Merci d'être venu aujourd'hui à ce micro pour échanger ensemble autour de votre livre. Amis auditeurs et auditrices, je vous donne bien sûr rendez-vous lundi pour découvrir un nouvel entretien de la librairie des étudiants au printemps du livre, l'entretien réalisé avec Isabelle Del Real. La capsule auditive de l'entretien du jour est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Je vous souhaite, comme avec le temps qu'on a aujourd'hui, une très belle journée et surtout, le plus important, d'avoir de belles lectures.